1902, donc un groupe a parlé sur le fait de répandre sa plainte, en expliquant que répandre sa plainte, c'était décharger son cœur. C'était étaler tous nos soucis, et qu'ensuite, on ne récupérait pas le fardeau qui était posé au pied de Dieu. Il y avait une question par rapport au dialogue avec Dieu. Et donc, quand on prend ce psaume, est-ce qu'on peut, on peut dialoguer avec Dieu par la prière? Donc, au verset 16 à 22, c'est Dieu qui agit dans ce psaume. Et au verset 17, le verset 17 lui répond au verset 1. Il aura égard à la prière du désolé, il ne méprisera pas leur prière, qui répond à « Éternel, entends ma prière, et que mon cri vienne jusqu'à toi. » Un autre point qui était important dans ce groupe, c'est par rapport au verset 28, « Les fils de tes serviteurs demeureront, et leur semence sera établie devant toi. Si Dieu demeure éternellement, alors les serviteurs demeureront aussi, c'est-à-dire nous, les croyants. » Donc voilà les trois points importants qui avaient été soulignés de ce groupe. Au verset 10, pour un autre groupe, je relis ce verset, « À cause de ton indignation et de ta colère, car tu m'as élevé haut et tu m'as jeté en bas. » Il y a une accusation de Dieu, il dit « C'est ta faute. » Ne nous arrive-t-il pas de penser cela dans les difficultés? C'est une réaction humaine. Et cette attitude peut être la nôtre aussi. Il y a contraste dans ce psaume entre la reconnaissance et les difficultés avec des expressions fortes. Après le découragement, on lève les yeux vers Dieu et il y a l'élévation et la reconnaissance. À côté de la difficulté et l'instabilité de la vie, il y a cette stabilité de Dieu qui est le même de génération en génération. Dieu agit dans le temps et à travers les hommes et on s'en souviendra. Il y a un aspect qui nous aide dans le temps, c'est l'espérance, en se souvenant des promesses de Dieu. Ensuite, quelques notes sur les versets 17 et 18 aussi, il aura égard à la prière du désolé. Ces versets font-ils référence à un événement précis du plan de Dieu? Alors, je lis le verset 18 aussi, excusez-moi. Il aura égard à la prière du désolé, il ne méprisera pas leur prière. Cela sera écrit pour la génération à venir. Et le peuple qui sera créé louera Jah. Donc c'est une question, est-ce que ces versets font référence à un événement précis du plan de Dieu? Donc on peut peut-être garder cette question. Sur la question, le psaume est-il prophétique? Les versets 18 à 22 le montrent. Ah oui, c'est aussi une question. Ce psaume est-il prophétique? Versets 18 à 22. Et puis ça se termine par la pensée de Dieu et la louange pour son plaisir, et à travers l'épreuve, Dieu nous amène à cela. Voilà, donc si dans les groupes, hein, je fais que relire, mais si quelqu'un a besoin de préciser, surtout qu'il n'hésite pas à le faire. Le troisième groupe, il y avait ils ont repris les questions qui avaient été données. Ce psaume parle de substitution, le psaume 22 d'expiation, et ce groupe dit qu'ils ont eu du mal à répondre à cette question, ils se demandent où est-ce qu'il y a substitution dans ce psaume. Il y avait une question sur les entêtes, en quoi les entêtes des psaumes prises comme premier verset dans certaines bibles peuvent être utiles à leur compréhension. Alors, il a été dit dans ce groupe que ça permet de mieux comprendre le contexte du psaume. Une troisième question sur la plainte. La plainte des versets 13 et 14. Quel est le vrai motif de la douleur, versets 13 et 14? En quoi cela peut-il nous motiver aujourd'hui? Alors, la motivation, c'est l'idée de la restauration comme pour Sion, car Dieu se manifestera, et l'annonce de la miséricorde, de la faveur, de la grâce de Dieu. Donc voilà ce qui motive aujourd'hui dans le fait d'exprimer sa plainte, sa douleur. Le vrai motif de la douleur ici, c'est Sion qui sera détruite. Il est parlé de pierre et de poussière. Une autre question, c'était quel motif de confiance en Dieu nous encourage? Versets 16 à 22. Alors, premier motif, c'est que Dieu écoute et entend, que Dieu va bâtir, c'est dit aussi dans ces versets, au verset 16, et que les nations craindront Dieu. Et puis donc, il y avait aussi une question, c'est comment dialoguer avec Dieu, parce qu'on voit dans ce psaume ce dialogue, par la prière, et parler et écouter Dieu à tour de rôle. Donc ça peut être fait soit l'un après l'autre, soit en même temps. Et puis la dernière question, c'est quelles sont dans ce psaume les preuves de la divinité de Christ? Alors le verset 27, toi tu es le même, et le début du psaume, ne me cache pas ta face. Et il a été dit aussi dans ce groupe que les accents prophétiques sont nombreux dans ce psaume. Donc voilà, je ne sais pas si je retransmets très bien ce qui a été dit. Je voulais juste, en dehors de ça, je voulais juste partager sur ce psaume ce que j'ai lu de Georges André. Georges André a, je crois que c'est dans un petit opuscule qui s'appelle « La part de Christ » sur les psaumes, qui faisait ce commentaire par rapport à « Mais toi tu es le même et tes années ne finiront pas ». Il racontait deux histoires. Première histoire, en Chine. En Chine, tous les bâtiments de la mission intérieure de Chine avaient été détruits par les insurgés et seul un mur avait subsisté dans cette mission avec ce verset « Toi, tu demeures ». Donc voilà une belle illustration, je trouve, de ce verset « Toi, tu demeures, tu changeras pas, ils ne seront pas changés ». Et puis l'autre histoire aussi, il raconte que pendant la guerre de 39-45 à Londres, une maison a été détruite. Et sauf le linteau de la porte qui était resté, avec une inscription, c'est 2 Corinthiens 5, verset 1. Je vais vous le lire. Car nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle, dans les cieux. Il y a eu sur ce psaume une question. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux commencer par y répondre.
Une question d'un genre un peu général sur le psaume 102. Dans les épreuves qui précèdent la conversion. Et là, je crois qu'il faut dire comment comprendre l'œuvre de Dieu pour chacun d'entre nous, la gloire du Seigneur dans son œuvre en chacun de nous. Si c'est bien lu ici. Alors, les épreuves qui précèdent la conversion. On a plusieurs épreuves décrites après la conversion. Et Hébreux 12 dit que Dieu permet des choses dans notre vie pour que nous participions à sa sainteté. Dieu nous forme. Et si on pense à avant la conversion, on peut bien aussi voir la main de l'amour du Seigneur qui permet qu'il y ait des difficultés dans notre vie pour nous tirer à lui. David dit dans le psaume 32, « Aussi longtemps que je me suis tu, ta main pesait sur moi. » Et il peut avoir alors des difficultés dans la vie d'un incrédule seulement pour le pousser vers le Seigneur, afin que un jour il n'y aura pas pire pour lui. C'est l'acte d'amour que le Seigneur permet ces difficultés pour qu'un tel trouve le Seigneur. Voilà, peut-être quelqu'un d'autre veut ajouter, mais c'est exactement ce qui est écrit ici, que des épreuves qui précèdent la conversion. Et on voit plusieurs qui pensent, après la conversion, que le Seigneur est en train de nous former. Nous sommes l'argile dans sa main et il nous forme en tant que ses enfants. C'est aussi sa main d'amour, quelquefois douloureux, mais c'est toujours pour notre bien. Pour moi, c'est le verset 20. C'est ça, car il regarde du ciel, du lieu élevé de sa sainteté.
Donc
Voilà, 19. Oui, et la question était, est-ce qu'on sait exactement qui est ce peuple? On voit souvent qu'il y a un accomplissement immédiat dans certains temps raisonnables et aussi un accomplissement prophétique futur. Si on pense à une ville de Jérusalem, si on détruit, on pense aussi à cette restauration lors de Esdras et de Néhémie, où il y avait vraiment à se rebâtir cette ville. Et ce peuple qui a créé, ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur, ils étaient contents. Bon, c'était pas parfait, parce que en voyant le temple, les gens ont pleuré. Ils ont compris, c'est pas à l'époque. Mais il y avait quand même une joie de restauration. Et bien sûr, il y a encore la vraie parfaite situation sera encore future quand le Seigneur est vraiment le roi à Jérusalem et il sera célébré par ce peuple en ce temps-là. Si on situe ce psaume au moment d'exil, au moment où Jérusalem était détruite et les gens n'étaient plus au promenant dans le pays, on pense bien, la joie était pour une génération future qui rentrait dans le pays.
Devant ce grand silence, deux mots, mais c'est une évidence que je vais dire. L'expiation, c'est ce que le Seigneur a fait vis-à-vis de mon péché. Il les a pris, il les a fait. La substitution, c'est proche, mais c'est pas tout à fait la même chose, en ce sens qu'il a pris ma place. Il s'est substitué à moi vis-à-vis du jugement de Dieu. Alors, dans ce psaume, je ne sais pas si on peut voir de la substitution, peut-être simplement dans ce sens que ce qui est appliqué à Christ vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis de ce qu'il a enduré, de sa mort, donc, comme la vue des versets, dans les versets 18 à 24, le Seigneur, donc, est entré dans la mort et il en est ressuscité. Il y a un verset très beau, mais que l'on ne peut que comprendre qu'à la lumière, donc, de ce que nous avons reçu, c'est-à-dire la vie éternelle, et pour comprendre ce qu'il a dit, c'est après les trois petits points dans le verset 24, « Tes années sont de génération en génération », c'est la réponse de Dieu à l'œuvre du Seigneur, à la mort du Seigneur. Donc c'est sa résurrection et la vie éternelle. Alors si on comprend, si on applique cela au Seigneur et en disant « Il a pris ma place », oui, c'est une substitution, mais il me semble pas que ce soit le sens premier de ce psaume-là.
Je lis le verset 20, pour entendre le gémissement du prisonnier, pour délier ceux qui étaient voués à la mort. Donc il y a une œuvre efficace, celle du Seigneur, qui entraîne les autres. Et dans ce sens-là, on peut voir une substitution, parce que les autres ne pouvaient rien obtenir, il se substitue à eux. Il obtient et il les entraîne.
Bien, alors, il y a donc deux groupes. un groupe dans lequel je me trouvais qui a finalement sorti 4 points qui lui ont semblé être des points forts. L'un des points forts, je vais vous dire, ne paraissait pas du tout être un sujet de préoccupation pour l'autre groupe. Quand j'ai récolté ce qu'ils ont exprimé, ils nous ont dit, mais enfin, c'est pas un problème, ça. Bon, alors vous en ferez ce que vous en voudrez. Je vais vous transmettre les 4 points forts. Le premier, c'est le constat d'une progression dans la louange. Le fait qu'il y ait d'abord une réalisation individuelle, ensuite une réalisation collective, puis les points s'enchaînent, chacun a sa réalisation individuelle, la somme constitue une réalisation collective, et il y a une démonstration faite au ciel dans cette réalisation. En relation, par exemple, avec ce que nous trouvons en Éphésiens 4, la sagesse si diverse de Dieu, qui est montrée, justement, aux principautés, aux autorités, qui sont dans les lieux célestes, par l'Assemblée. Donc, quelque chose est vécu, et du ciel, on lit beaucoup de choses qu'on ne lit pas de la terre. Le résultat, c'est la louange universelle. Les anges constatent, les armées voient, et il y a les œuvres elles-mêmes, ce qui a été produit dans la création, puisque on trouve des expressions dans le livre des psaumes, dans lesquelles la nature même exprime, les collines chantent. Hein. Il y a une manifestation à travers les vrais croyants de quelque chose qui produit la louange. Et ça, ça nous a semblé quelque chose de fort. C'est le premier point que nous avons retenu. Le second point, c'était la pensée que les sœurs, qui, comme nous le trouvons, nous le voyons comme ça, hein, c'est pas la pensée de tous les chrétiens absolument, mais nous lisons, nous, que les sœurs ne s'expriment pas dans les réunions dites d'assemblée, et par conséquent, quand il y a une expression de louange collective, eh bien, on pourrait penser que les sœurs sont frustrées. On a donc posé la question à une sœur de notre groupe, et on lui a dit, voilà, nous, les hommes, on ne peut pas, mais vous, les sœurs, vous pouvez nous dire quelque chose à l'égard de ce point-là. Et la conclusion a été que les sœurs pieuses ont des chants, des moments, des circonstances dans lesquelles elles peuvent dire et vivre officiellement, voire publiquement. Hein? Eh bien, la piété de ces sœurs et leur manifestation a une influence sur tous ceux et celles qui sont en contact avec elles, et il en résulte quelque chose qui transparaît dans la louange. Et notre sœur nous disait en particulier, ce que j'ai vécu avec le Seigneur pendant la semaine me porte pour une appréciation personnelle, pour une participation intérieure à la louange collective exprimée par la bouche de plusieurs frères. Donc, les sœurs ne sont pas frustrées tout en gardant leur place, puisqu'elles ont aussi des champs de décision, etc. Donc voilà. Le deuxième point, on n'a pas de questions, mais si vous avez des questions après, vous pourrez les poser librement. Vous voyez, on ouvre le champ pour que vous ayez la possibilité de dépasser même le nombre des questions précédentes. Troisième point, il nous est apparu que la vraie bénédiction, le regard de Dieu sur ce qui nous concerne et sur les circonstances, doit primer sur notre appréciation. Donc, au lieu de regarder à notre appréciation, notre compréhension des choses, on cherche, à travers ce que le Seigneur nous fait vivre, comment Dieu se manifeste. Et on récolte là, et c'est pour nous, une véritable source de louange. On y reviendra un petit peu avec ce qu'a exprimé l'autre groupe, et le point en tout cas, qu'ils m'ont demandé de transmettre. Quatrième point pour nous, eh bien, vous avez remarqué que dans le verset 11, dans le verset 13 et dans le verset 17, il était question de crainte. Alors, la piété plus la conviction produit une responsabilité qui nous fait vivre quelque chose qui est important pour les générations futures. En particulier, le verset 17, « La bonté de l'Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qu'il craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils. » Si nous, génération actuelle responsable, nous vivons les choses en appréciant tout ce que Dieu nous accorde et en jouissant de ce qu'il nous donne, eh bien, nous manifestons une satisfaction et une reconnaissance qui induit dans la génération suivante un bonheur, un bien-être, un état de satisfaction, une disposition à la louange qui va la servir et la conduire à servir ensuite d'autres générations. Voilà, ça passe pas simplement d'une génération à une autre, il peut y avoir un décalage de quelques années et des transmissions qui se passent à travers une même classe d'âge. Mais voilà pour les quatre points essentiels que nous avons pensé devoir transmettre au grand groupe. Autre groupe du psaume 103. Alors, je vous ai dit qu'il y avait pour eux quelque chose qui nous a retenu qui n'était absolument pas un problème. Et ce quelque chose qui nous a retenu, c'est le problème des sœurs et la pensée que certaines sœurs pourraient se sentir frustrées au moment de la louange collective. Alors, entre autres, je transmets, la louange, Dieu la voit dans les cœurs. Ceux qui s'expriment devraient traduire un sentiment collectif. Et puis on m'a dit, quand même, vous êtes bien gentils. C'est sûr que les sœurs ne s'expriment pas dans les réunions d'assemblée, mais il y a combien de frères qui ne s'expriment pas? Et alors, vous les prenez pas en compte? Voilà, donc ce sentiment de frustration des sœurs, nous on l'a vu à cause de la déclaration de la parole de Dieu, que vos femmes se taisent dans les assemblées, mais eux n'ont pas vu que c'était un problème, et ils pensent que tous ceux qui ne s'expriment pas doivent avoir une contribution quelque part qui élève le culte, sert la louange et apporte quelque chose au contenu de l'expression de la louange collective. Donc voilà, maintenant, vous allez réfléchir, si vous avez des questions, vous en poserez. Point suivant, autre groupe. Alors eux se sont dit, bien, on vient officiellement pour louer. Mais, alors ça c'est moi qui l'ajoute. On regarde les expressions des personnes quand il y a en particulier une salle. Imaginez qu'on soit ici dans une séance de louange, il y a beaucoup de personnes. Alors il y a des expressions qui traduisent le bonheur et la satisfaction. On se dit, ah voilà quelqu'un qui est là, absolument partie prenante. Puis il y a des expressions fermées, on se dit, tiens, on est heureux dans la présence de Dieu, ça se voit pas trop. Voilà, donc vous pouvez penser à tout ce que vous voudrez, derrière ces choses-là, leur conclusion, ça a été, eh bien, on peut avoir des raisons de réelle, de tristesse, et par conséquent, on n'a pas envie. Alors, comment louer quand on n'a pas envie? Autrement dit, est-ce qu'on peut quelque part venir à une réunion pour exprimer la louange, réunion de culte en particulier, et parce qu'on le sent pas bien, eh bien, on n'a pas quelque chose là qui nous fait être partie prenante et participer, contribuer à l'élévation de la louange? Alors, leur conclusion, c'est d'abord, il faut croire, sommes bien d'accord, s'il n'y a pas la foi, on trouve rien. Deuxième point, il faut compter les bienfaits de Dieu. Donc, quand on vit les circonstances de la semaine, je le dis assez souvent, c'est intéressant, le soir de chaque jour, de faire un bilan. Et de dire, voyons, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Quelle était la place de Dieu dans les choses que j'ai vécues? Comment est-ce que j'ai éprouvé la présence du Seigneur, son accompagnement, puisqu'il dit « Je suis tout, avec vous tous les jours ». Et alors, qu'est-ce que j'ai vu de la main de Dieu et qui me porte à la louange? Ben, on est gardé tous les jours, et puis il y a des temps forts qu'on vit avec le Seigneur. On a une hésitation par rapport à quelque chose, je le fais, je ne le fais pas, je réponds positivement ou négativement, on m'invite, j'essaie de faire le tour de ce qui est lié à cette invitation, est-ce que je dois dire oui ou non, etc. Tout ça, ce sont des moments avec le Seigneur, et ça se pose tous les jours. Donc, on cherche Dieu. Et quand on a l'habitude de le chercher, on le trouve dans les circonstances, on voit sa main, et on peut faire le compte des bienfaits de Dieu. Ça, c'est une source pour la louange. Et l'envie est en train, vous constatez, hein. D'abord, je crois, j'ai un motif pour croire, à cause d'une œuvre magnifique et puissante qui m'a tiré d'où j'étais, et qui m'a introduit dans la vie, et qui a rempli mon cœur, pour dire quelque chose, ça je ne peux pas l'oublier. Bon, l'envie, le manque d'envie commence à fondre un petit peu. Je prends l'habitude de compter les bienfaits de Dieu, je fais le bilan chaque jour, et quand j'arrive à la fin de la semaine, qui commence le dimanche, qui est nourri du lundi au samedi, qui conduit à une expression, en tout cas, le dimanche, puisque nous vivons en général nos réunions de culte le dimanche, eh bien, quand je fais le compte de ces bienfaits, eh bien, le manque d'envie fond un petit peu plus. Et puis ensuite, il y a un entraînement à la louange, à l'expression de la reconnaissance. Si on est habitué à voir Dieu, dès que on voit la main de Dieu et une délivrance de Dieu, on dit merci dans son cœur tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est comme versé dans un sac, dans une provision. Et chaque fois qu'on le dit, la provision croît. Alors, on cultive de cette manière, on choisit un esprit de louange, et voilà, ça finit de faire couler le manque d'envie. Ensuite, quand on est triste, et oui, parce qu'on peut avoir des motifs de tristesse, il y a des circonstances qui sont douloureuses, mais il faut lire le livre des psaumes, bien sûr, parce que on trouve dans le livre des psaumes bien des circonstances douloureuses, et puis le mets-toi dont on a parlé ce matin vient changer la face des choses en disant, bon, il y a ça, mais Dieu derrière. Et puis, il y a ceux qui ont traversé des moments difficiles, qui les ont traversés avec Dieu et qui en ont été grandis. Un Job traverse des moments difficiles, il résonne. On a beaucoup de chapitres jusqu'au chapitre 28 où on trouve justement ces réflexions intérieures, des choses qui nous blessent dans les échanges de Job avec ses amis. Et puis quand Job parle de Dieu d'une manière particulière, on a une appréciation humaine, on dit quand même c'est pas convenable. Oui, mais ce qui m'intéresse, ça n'est pas c'est convenable ou ce n'est pas convenable. C'est l'appréciation de Dieu. Et Dieu dit que les amis de Job n'ont pas parlé de lui comme il convenait, comme Job l'a fait. Il y a donc une réalité intérieure que Dieu lit dans les cœurs, et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Bien. Alors, à la fin, on l'a dit ce matin, hein, c'est Frédéric qui l'a évoqué. La fin de Job est beaucoup plus belle que son commencement. Il a eu des moments de tristesse et de difficulté, et ça débouche sur quelque chose de magnifique et de plus grand. Bien, on peut donc prendre cette expérience comme appui, et puis découvrir que si on est triste, eh bien il y a peut-être derrière la tristesse un travail divin qui va déboucher sur quelque chose qui aurait été inaccessible sans ce moment-là. Quand on pense donc à cette expérience, eh bien, on a aussi envie d'exprimer sa reconnaissance parce qu'on dit dans son cœur, « Je ne comprends pas, tu es en train de faire quelque chose, et comme tu fais toujours quelque chose pour grandir, eh bien, tout à l'heure, je vais l'apprécier, et c'est un motif de louange. » Donc, il y a toujours aussi, ça c'est la base, le pardon des péchés. Et puis, Dieu connaît les circonstances des siens, il connaît les motifs du découragement. C'est le cas de Job, par exemple. Ils ont donné comme contre-exemple Jonas qui s'irrite, et il entend, mais fais-tu bien de t'irriter, il s'irrite à cause du ticajon, fais-tu bien de t'irriter? Voilà, en fait, Jonas était dans ses pensées, pas dans celles de Dieu, et il doit être repris, il n'a pas raison de s'irriter. Donc, si on a des motifs de tristesse et des raisons de se plaindre, souvenons-nous de la question qui est posée à Job, fais-tu bien de t'irriter? Laissons de côté notre tristesse et vivons avec le Seigneur en pensant qu'il est en train, je le redis, de faire quelque chose d'important qui va déboucher sur la louange. Et comme on lui doit la louange, parce que dans le psaume 103, c'est une quelque chose de fort, une sorte d'invitation expresse, « Mon âme bénit l'Éternel », c'est pas béni, si tu en as envie. « Mon âme bénit l'Éternel ». Donc en associant ces côtés, pouvons voir que la tristesse ne doit pas être une raison, un motif pour ne pas louer. Et puis ensuite, vivre dans la crainte de Dieu, donc là on fait référence aux versets 11, 13 et 17 dont j'ai parlé tout à l'heure, où est signalée la crainte. Bon, est-ce qu'il y a des questions qui monte ici. Tu complètes. Alors, j'ai terminé.
C'est la fée chasse la crainte. Souvent, le mot crainte, on a la notion de peur. Dieu est grand, j'ai peur, je ne m'approche pas. Non, c'est le respect confiant en Dieu, donc dans une relation. Et ceux qui le craignent, c'est ceux qui ont cette confiance, cette paix avec Dieu, ce respect profond qui l'honore. Et peut-être encore à la louange. Ah oui, se mettre debout. Quant à la louange, il me semble que le livre des psaumes nous parle de notre vie quotidienne, beaucoup plus que des réunions d'assemblée. Et il est clair qu'il n'y aura pas de culte en commun, d'adoration en commun, si on n'a pas de vie personnelle avec le Seigneur, de vie de relation, de vie de communion, et qui va se traduire aussi par la reconnaissance, par mon âme bénit l'Éternel, et c'est quelque chose de quotidien, et c'est quelque chose à cultiver dans notre vie. Quelque chose, comment dire, c'est un état d'esprit à cultiver en permanence. On a parlé un tout petit peu, je vais répéter ce que j'ai dit, ça fait rien. On a parlé un peu de Jonas. Jonas, quand il a vu que Ninive se convertissait, au lieu de se réjouir de voir l'œuvre de Dieu et de louer Dieu, il a dit, tu m'as fait un sale coup. Tu m'envoies pour faire ça, et de quoi j'ai l'air, moi? J'ai dit qu'ils allaient mourir et tu les fais vivre. Et puis, il a cultivé cet état d'esprit. Pourquoi? Parce que lui-même était son centre, et la gloire de Dieu n'était pas son centre. Et puis après, il cultivait cet état d'esprit, il s'irrite, et Dieu lui dit, fais-tu bien de t'irriter? Dans notre psaume, il me semble que l'état d'esprit, c'est mon âme bénit l'Éternel. Tu as de multiples raisons de le faire. Bon, ouvre tes yeux pour les voir, et de cela, et que cet état d'esprit transforme au fond ta vie et glorifie Dieu.
Je voulais juste donner une précision parce que faire rectifier, on n'a pas du tout parlé des réunions et de la frustration des sœurs dans notre groupe, c'est moi qui en ai parlé avec Jacques. Et ce que je voulais dire quand même, je voudrais le dire, c'est que la louange qui monte vers Dieu, c'est pas le bruit qu'on fait, c'est pas la prière qu'a fait le frère pendant le culte, ou c'est pas la musique des cantiques. La louange, c'est ce qui monte de notre cœur, du profond de notre âme vers Dieu. Alors je vois pas la différence entre un frère et une sœur. Il y a un frère qui a le service particulier d'exprimer la prière. Très bien, c'est très utile. Mais c'est pas ça la louange. La louange, c'est chacun des participants, qu'ils soient frères ou qu'ils soient sœurs, qui du profond de leur cœur, faire monter cet hommage et cette reconnaissance vers Dieu. C'est ce qu'on voulait dire.
Il y a une question. La question, je vous la donne, mais je crois qu'elle est,
elle est presque semblable à celle à laquelle répondait le frère Jean-Luc. Comment concilier la crainte et plaire à Dieu? Alors, je crois qu'on peut reprendre le verset auquel il a fait allusion tout à l'heure dans 1 Jean au chapitre 4, verset 19. Et on peut le mettre en parallèle ou en relation avec Hébreux chapitre 12, verset 28. Un Jean chapitre 4, verset 19. Plutôt le verset 18 dans Darby. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment, et celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. On lit Hébreux chapitre 12, verset 28. Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte. Car, verset 29, notre Dieu est un feu consumant. Alors, nous parlions dans le chapitre 103 de la louange. Justement, ce verset nous parle du culte qui soit agréable à Dieu. Il est dit qu'il doit être rendu dans la piété et avec révérence. Donc, la crainte, justement, ici, c'est une question de piété intérieure. Le frère Jean-Luc l'a dit, c'est cette confiance respectueuse de Dieu. Mais il a ajouté, notre Dieu est aussi un feu dévorant, un feu consumant. Alors ceci s'applique à ceux qui ne vivent pas en harmonie avec Dieu, ceux qui ne sont pas en communion avec Dieu. On le voit dans Genèse au chapitre 3, au verset 10. Adam, quand Dieu lui pose la question, où es-tu? Il a dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Si on prend la crainte comme peur, alors ça c'est le fait de ceux qui ne vivent pas en harmonie avec Dieu. Mais si on la considère comme une attitude de piété, de respect, je crois que ça c'est une attitude normale pour les chrétiens. Cependant, il faut souligner que même les chrétiens, lorsqu'ils ne vivent pas en harmonie avec le Seigneur, en communion, il peut leur arriver d'avoir peur de Dieu, malheureusement. Parce que le péché suscite en nous des sentiments de peur. Et donc nous avons tout intérêt à apporter la louange, mais avec piété et avec révérence. Et dans notre vie, marcher comme adorateur, mais dans la piété.
Je voulais faire une petite remarque à propos des bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a bienfaits et bienfaits. Il y a des bienfaits qui nous sont particuliers, qui sont particuliers à chaque chrétien, et il y a des bienfaits qui sont universels. Et je crois qu'il ne faut pas confondre les deux. C'est vrai qu'il y a des chrétiens dans beaucoup d'églises qui, par exemple, ils ont fait une expérience de délivrance dans la semaine. Et raconte ça au culte. C'est pas défendu. Mais je me demande si c'est l'adoration. Parce que c'est pas universel à tous les chrétiens, ça. C'est bien fait qu'il faut compter. nous pouvons les compter chacun dans notre vie. Mais ça nous est un peu personnel, et cette reconnaissance, elle est aussi personnelle à Dieu. Quand nous venons au culte, il me semble qu'il y a un autre groupe de bienfaits, ce sont les bienfaits universels, c'est-à-dire ceux qui sont vrais pour tous les chrétiens du monde entier, pour tous les chrétiens qui sont là rassemblés. Bon, alors il y en a certains dans ce psaume d'ailleurs, le pardon divin, la guérison divine, le rachat, l'éternel est miséricordieux. Il ne nous a pas fait selon nos péchés, ne nous a pas rendu selon nos iniquités, sa bonté est grande, bon, etc. Donc ça, c'est des éléments, c'est des bienfaits de Dieu qui sont communs à tous les chrétiens. Et nous venons là au culte pour louer Dieu pour ses bienfaits. Pas pour la délivrance que j'ai eue dans la semaine. Oh, ça c'est très précieux, mais ça mon frère l'a pas vécu. Peut-être que je ferais bien de le raconter à la réunion d'édification, par contre. Là, peut-être nous manquons, justement. Parce que ça serait intéressant de raconter les bienfaits et les délivrances que nous avons vécues avec Dieu, et ça encouragerait nos frères. Mais il me semble pas que c'est la place dans le culte. Ça mérite réflexion.
Est-ce que je peux faire une réaction ?
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut pas voir le témoignage d'un bienfait de Dieu pour moi, par exemple pardon de péché que j'ai vécu, et qui peut, ce témoignage que je fais, peut nous entraîner dans l'adoration. Donc c'est un autre regard, c'est-à-dire que le bienfait vécu personnellement montre un caractère de Dieu d'un bienfait qui est universel. Est-ce que, voilà, j'essaie de voir pourquoi certains le pratiquent.
Mais nous avons l'habitude de dissocier les bienfaits que nous recevons de Dieu dans les expériences de la vie et ce qui est universel pour tous les chrétiens, ce que Dieu est, ce que Jésus est, la rédemption que nous avons, c'est-à-dire ce qui est fondamental. Les circonstances, bon, ça c'est un autre registre. Nous, on n'a pas l'habitude de mélanger et je ne sais pas. Je crois que... Enfin, non, je ne veux pas dire qu'on a raison. Mais l'autre méthode, il faut bien le reconnaître, ouvre la dérive à transformer un culte en ce que chacun raconte sa petite histoire, même si elle est belle. Mais on risque de passer aussi à côté des grands bienfaits de Dieu fondamentaux, la délivrance en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu est ? Est-ce que Jésus est ? Est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il fera ?
L'esprit essentiel du culte qui nous dirige, c'est quelque chose en fait.
Fondamentalement, il est le centre, oui. Il est le centre du grand plan divin. D'ailleurs, dans ses bienfaits, il n'y a pas que notre salut. Nous centrons souvent le culte sur nous. Mais le culte, c'est apporter à Dieu, apporter Jésus-Christ à Dieu. C'est là son plaisir, c'est là sa joie. Et puis nous ne sommes pas le centre du propos divin. C'est Jésus, Jésus-Christ en qui Dieu veut réunir en un toute chose. C'est lui le centre du projet divin et nous sommes inclus dans ce plan. Mais nous ne sommes pas le centre. Donc ça, c'est... Et je pense qu'on a été très gâtés quand dans l'enseignement qu'on a reçu quant au culte. Mais enfin, ça fait pas notre vitalité. Hein.
On passe peut-être au psaume 104. À moins que quelqu'un d'autre ait quelque chose à rajouter hein, sur les psaumes 102 ou 103, on ne veut pas...
Très souvent, il existe dans l'esprit des chrétiens une certaine confusion entre, d'une part, des choses qui sont de la création et tous les soins providentiels que Dieu apporte à tous les humains sur un même pied d'égalité et ce que Dieu fait particulièrement ou exclusivement pour ses enfants. Alors, nous sentons le besoin d'insister sur la différence de ces trois œuvres de Dieu, la création, la providence et la rédemption. Et nous montrons que les chrétiens se situent essentiellement sur ce terrain de la rédemption. Et donc notre culte, le culte que nous rendons à Dieu, est rendu sur ce terrain, même si on ne peut pas faire abstraction de ce que Dieu a fait dans la création. Mais la création a été détruite par le péché. Et puis Dieu gère la création par la providence et les soins providentiels, il les dispense autant aux païens qu'aux chrétiens. Tandis que sur le plan de la rédemption, là, c'est la part exclusive des chrétiens. Et voilà, ça nous permet d'aider certains frères qui insistent sur le fait que quand on vient au culte, on peut apporter des témoignages. Moi, j'étais guéri. On a prié pour moi hier, j'étais guéri. Et écoutez, à l'école, moi, j'ai réussi et je passe de classe. On dit, c'est pas mal, mais il faut discerner les thèmes prioritaires du culte.
Je vais essayer de synthétiser au mieux. Je ne serai certainement pas exhaustif, vous m'en excuserez. Il pourra y avoir des compléments, bien sûr. Peut-être le premier... Les questions qui étaient posées, en quoi une conscience accrue de Dieu comme créateur peut transformer peut-elle transformer ma relation avec lui? Donc ma relation avec lui, donc c'est dans le cadre, ça concerne les chrétiens. Un aspect qui a été souligné, c'est que la vision de la création nous montre la grandeur de Dieu et nous incite à l'humilité. Parce que même comme chrétien, on peut des fois être un petit peu, avoir un peu les chevilles qui gonflent. C'est un des enseignements aussi qu'on trouve dans le livre de Job. Un autre aspect, c'est la louange, bien sûr, et c'est sur cette note-là que se termine le psaume 104. On a remarqué dans plusieurs groupes que la louange, cette louange au Dieu créateur, le fait que Dieu a tout créé et soutient toutes choses, on la retrouve dans plusieurs endroits. On la retrouve non seulement dans les psaumes, mais aussi dans l'Apocalypse, le chant des 24 anciens, Apocalypse 4. C'est présent dans Néhémie, chapitre 9 également, et puis dans les Actes, une des premières prières des chrétiens, après l'emprisonnement de Pierre et Jean, je crois. On retrouve cette invocation au Dieu créateur. La question a été posée en continuité avec le thème, enfin juste le débat, si on peut dire, qu'il y a eu juste avant. Dans quelle mesure est-ce que dans le culte, on n'en a pas l'habitude, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer aussi louer Dieu pour son œuvre créatrice telle que c'est fait dans les psaumes. Alors, je me contente de retranscrire ce qui a été évoqué. Un aspect également, c'est ce que m'apporte la création dans ma relation avec Dieu, c'est peut-être l'idée de confiance, parce que la création montre aussi l'autorité de Dieu sur sa création. On le voit dans Lucien l'a souligné rapidement, verset 32, Dieu a autorité sur la création. Si lui commande les vents, les mers, le mouvement des planètes, est-ce qu'il n'est pas aussi à même de diriger parfaitement et complètement les circonstances de ma vie? À ce propos-là, il y a des versets qui nous parlent, qui ont été évoqués, c'est Matthieu 6. Pas un seul de ces petits oiseaux, de ces passereaux ne tombe en terre sans que votre Père céleste ne le sache. Alors, est-ce que vous allez vous inquiéter pour les circonstances de votre vie? C'est là aussi un aspect du Dieu créateur. Un autre aspect, alors, qui concerne peut-être, qui concerne peut-être plus le côté d'une discussion avec un incrédule, par exemple, c'est dans les autres questions qui étaient posées. Quels éléments, je ne prends pas dans l'homme, mais quels éléments mettent en évidence l'amour du Créateur envers les hommes? Donc ça concerne aussi bien les croyants que les incrédules, bien sûr. On a souligné trois, les versets étaient donnés en référence. D'abord la protection de la vie, les eaux qui ne dépassent pas leurs limites, pour protéger par exemple des inondations. Ensuite, la nourriture qui est donnée au moment, au bon moment et de la bonne façon par Dieu, aussi bien aux animaux qu'aux êtres humains. Et puis également le travail, ça on l'a souligné dans notre groupe, le travail n'est pas vu dans ce psaume-là comme une malédiction, mais au contraire plutôt comme la possibilité que Dieu donne que notre activité puisse nous produire quelque chose et nous permettre de nous nourrir. Et c'est effectivement quelque chose de terrible lorsque l'activité est stérile, lorsqu'on ne peut pas travailler, lorsqu'on ne peut pas subvenir à ses besoins. Nous avons le privilège, nous qui avons en tout cas un travail, un emploi, de pouvoir subvenir à nos besoins. C'est une grâce de Dieu qui est présentée dans ce psaume également. Verset 23. Un aspect alors qui concerne peut-être davantage encore nos discussions avec des incrédules. Comment aider un incrédule à discerner la gloire du Créateur derrière la création? Alors là, il y a bien sûr un verset qui est revenu à plusieurs reprises, c'est dans le premier chapitre des Romains, verset 18. L'apôtre montre que même ceux qui n'ont pas jamais eu connaissance de l'Évangile peuvent discerner la puissance éternelle de Dieu et sa divinité. Ça, c'est l'Évangile de la création, la révélation élémentaire que tout homme, qui est accessible à tout homme. Et effectivement, ça peut être un point de départ dans une discussion avec un collègue, avec un ami, avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Un autre aspect qu'on a souligné, c'est que cette révélation par la création, elle est élémentaire, elle est fondamentale bien sûr, mais elle ne suffit pas. Les déistes, par exemple, sont des gens qui croient à un Dieu créateur, mais c'est pas cela qui en fait pour autant des croyants, des chrétiens. Il faut aller plus loin. Et il doit y avoir un travail de conscience. L'idée que Dieu est non seulement tout puissant et créateur, mais aussi qu'il s'adresse à moi et que j'ai quelque chose à voir avec lui. Et ça, c'est peut-être davantage ce qu'on trouve, par exemple, dans Acte 17, le discours de Paul à Athènes. Paul parle de celui qui donne à tous la vie et la respiration. Il présente ce Dieu inconnu, comme le Dieu créateur, et ensuite il enchaîne, mais c'est le Dieu qui ordonne à tous qu'aujourd'hui les hommes se repentent, en tout lieu se repentent. Donc il y a une exigence de Dieu, ça suffit pas de considérer Dieu comme le Dieu créateur, celui qui a tout créé. Dieu attend un mouvement de moi vers lui, j'ai quelque chose à voir avec lui. Cet aspect, on le trouve dans le verset 35 de notre psaume, où on tombe presque un peu brutalement, la première fois qu'on le lit, moi ça m'a fait un drôle d'effet, on a l'impression que c'est presque hors sujet, ce verset, que les pécheurs disparaissent de la terre et qu'il n'y ait plus de méchants. Après cette louange pour la création, oui, Dieu se manifeste dans la création, mais on ne peut pas en rester là. Dieu est aussi un Dieu de sainteté, un Dieu qui attend, qui doit toucher ma conscience. Alors, je ne vais pas être trop long. Peut-être encore une question qui concernait les éléments qui mettent en évidence l'intelligence, la sagesse et la puissance du Créateur. Alors dans le groupe on s'est un peu interrogé, ces termes intelligence, sagesse sont proches. On peut dire, pour résumer, c'est peut-être pas très un peu basique, mais ça donne quelques idées. Dieu, l'intelligence divine qui se manifeste dans la création, on comprend que la création n'est pas issue d'une force divine, de quelque chose d'un peu vague. Intelligence nous parle du fait que Dieu est il s'agit d'une personne, Dieu est personnel, Dieu est esprit, mais Dieu n'est pas une force. Et il y a derrière tout cela un Dieu personnel qui est créateur. Ensuite, la sagesse de Dieu, dans ce côté qui éclate dans la création, cette diversité extraordinaire de la création, ce fait que tout soit, comme Lucien l'a abondamment commenté ce matin, si bien ordonné, si merveilleusement construit et soutenu par sa puissance. Et puis la puissance du Créateur, là c'est assez évident, la dimension, il suffit de regarder un ciel étoilé pour se rendre compte de cette extraordinaire puissance qu'il a déployée dans la création, et bien sûr, qui nous amène aussi dans le thème de l'adoration au culte, la puissance qu'il a déployée envers nous qui croyons, dans son plan de rédemption. Ça, c'est un autre thème. Deux éléments encore pour terminer. Un groupe s'est intéressé à soulever la question de l'écologie. Alors, c'est effectivement un thème lié à ce psaume qui nous parle de la création. Quelle responsabilité a l'homme dans la création? Alors là, peut-être c'est un thème qui nécessiterait un développement à part entière. Il y a eu quelques éléments. L'homme a une responsabilité vis-à-vis de la création, et c'est vrai qu'il ne l'a pas exercée avec sagesse. Il suffit de voir les dégâts qu'il a causés dans cette création qui, aujourd'hui, soupire et attend la révélation, l'avènement du Messie. Et alors, également, une question... c'est la seule que j'ai notée, s'il y en a d'autres, vous les reposerez. Ça concernait Romains 1, justement. Je la reprends pour ne pas la déformer. Quelle sera la part de ceux qui ont reconnu un Créateur sans connaître le vrai Dieu et Jésus-Christ? Donc des personnes qui n'ont jamais eu contact avec l'Évangile, mais qui ont eu connaissance de Dieu par la création et le témoignage de leur conscience également, hein, tel que c'est décrit dans le début des Romains. Voilà, quelle sera leur part, puisque effectivement c'est une catégorie de personnes un petit peu particulière. Voilà. S'il y a des compléments, bien sûr, c'est ouvert.
J'ai deux questions qui émanent justement de notre groupe. La première question, c'est justement à propos de l'écologie. Est-ce qu'un comportement éco-responsable fait partie du témoignage chrétien? Donc on a commencé à réfléchir à cette question, et faute de pouvoir répondre, parce qu'elle est pas simple cette question, elle est quand même intéressante justement parce qu'elle fait réfléchir. Et donc on peut énoncer le principe général, que le chrétien devrait être respectueux de la création, respectueux de la vie, parce que justement, il sait, lui, la conscience, que Dieu a bien ordonné les choses, et que selon cette ordonnance de Dieu, ça doit marcher. Et ça peut aller très loin, ça peut aller des exercices dans le couple, ça peut être les exercices d'un agriculteur... avec son sulfatage, ça peut être une ménagère qui met des produits toxiques dans les toilettes ou ailleurs. Bon, c'est très très vaste. Alors, on a essayé de réfléchir, et il faudrait encore réfléchir, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde où on est allé très loin dans le mauvais sens. Et vous savez, quand vous avancez dans une impasse, si vous faites 10 mètres, c'est pas grave. On recule facilement. Mais si vous faites 300 mètres, alors là, ça va être un peu rude pour reculer. Et nous sommes un peu dans cette situation. Et oui, l'un d'entre nous disait, c'est quand même étonnant que les chrétiens pensent à ça maintenant. C'est dans l'air du temps, mais ils auraient pu y penser avant, finalement, eux. Donc ça veut dire qu'on suit un peu comme des moutons de Panurge. Si ça va, on va dans le sens du courant, peu importe si ça nuit à la terre, les chrétiens sont allés dans le sens du courant. Et puis maintenant que les hommes réfléchissent et puis qu'ils voient que ça va mal pour la vie de la terre, ben, les chrétiens aussi se mobilisent. Ils réfléchissent au problème. Ils auraient pu réfléchir un peu avant, finalement, comme les Amish. On a pensé aux Amish. Peut-être les derniers seront les premiers. Bon, c'est un grand sujet, ça, tout ça. Hein. En tout cas, le chrétien est respectueux de la vie. Mais bon, quelle application ça peut avoir si nous avions été vraiment très respectueux de la vie sur la planète Terre, il aurait fallu qu'on vienne à Angoulême à pied de l'Ardèche, vous vous rendez compte? C'est comme en Afrique, ils partent combien, 8 jours avant avec un vélo. Ça nous impressionne, ça. Ils partent même plus tôt que nos frères qui y vont en avion ici. Donc, alors, c'est, si on a le temps, ce serait intéressant de réfléchir encore. Mais peut-être bien que ça peut avoir des applications et ça peut être un témoignage autour de nous, finalement, auprès des incroyants qui n'en ont rien à faire à la vie et à ce que Dieu a ordonné. En tout cas, peut-être dans les relations homme-femme, par exemple, eh ben, notre témoignage chrétien peut être rudement efficace si nous faisons attention à ce que Dieu a institué et qui doit marcher. Si ça marche pas, c'est à cause de nous, c'est pas à cause de ce que Dieu a ordonné. Bon, la deuxième question, c'est quel est le devenir de la terre après le millénium? Bon, et bien là, il me semble que la réponse est plus simple. Pendant 1000 ans, Dieu va manifester d'une façon éblouissante, je crois, selon par exemple des Ésaïe 11 et puis d'autres passages où il est parlé de la fécondité de la terre. Les cieux répondront à la terre et la terre aussi répondra, bon, comme dans le cantique, mais c'est sur la base d'un verset. Donc Dieu va montrer la beauté de la terre, une terre restaurée, une terre qui ne soupira plus, qui sera libérée de la servitude et qui sera associée à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, Romains 8. Mais après ces 1000 ans, et moi c'est pas moi qui dis ça, c'est l'apôtre Pierre dans son deuxième épître, il dit, c'est quand même assez clair, mais il a parlé du déluge, la terre a été détruite par l'eau, et chapitre 3 verset 7 il dit, mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jugement, pour le jour du jugement et la destruction des âmes impies. Donc il semble bien que dans ce passage, la terre sera détruite. C'est très facile qu'elle soit détruite. Maintenant, d'ailleurs, on a pu établir des scénarios. C'est très très facile. De toute façon, elle est qu'une poussière dans l'immensité. Mais Dieu, par contre, après le millénium, si je comprends bien la Bible, Dieu conservera un échantillon de la terre, puisqu'il est dit après, il fera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors, qu'est-ce que sera cette terre? Alors, ces cieux et sa terre. Bon, certains chrétiens pensent que c'est un langage spirituel. D'autres pensent que ces cieux et cette terre sera matérielle. Bon, il faut jamais aller trop loin dans l'écriture. On est là tout petit devant l'écriture comme on l'est devant la création, n'est-ce pas? Mais voilà ce qu'il dit. Dieu gardera un échantillon, enfin je le dis après un autre, et c'est pas sans émotion qu'on peut penser que Dieu gardera un échantillon de cette terre où un jour son Fils est venu et où un jour sur cette terre la croix a été dressée. C'est ça qui est important pour Dieu. Mais sa création fera place à une nouvelle création et à un bonheur incomparable devant lui. Voilà.
Juste un petit mot sur l'écologie. Bon, ceux qui me connaissent savent que je suis un écologiste convaincu. C'est pour ça que je suis venu depuis Bayonne, d'ailleurs, hier soir, en train, bien sûr. Le moyen qui dégage le moins de dioxyde de carbone par passager. Mais je voudrais quand même soulever un peu les dangers qu'il peut y avoir dans l'engouement pour l'écologie. Parce qu'il y a aussi des dangers. Voilà, je vais un peu jouer l'autre rôle, hein. Je pense qu'il y a deux dangers. C'est l'idée de la morale écologique. Donc notre société est en déficit de morale. On ne sait plus où est le mal et où est le bien. On pourrait s'inventer une nouvelle morale en mettant à égalité tous les êtres vivants. C'est-à-dire que la nouvelle éthique serait de dire, voilà, chaque être vivant a une dignité égale, humain comme animaux, comme végétaux. Et donc on voit apparaître des personnes qui veulent plus manger de certaines choses. Alors il faudrait bien qu'ils mangent quelque chose, hein, quand même. Mais plus manger d'animaux, parce qu'ils disent que les animaux, faut pas faire souffrir les animaux, parce qu'ils sont égaux aux humains. Bon, ça pourrait être une nouvelle norme qui donnerait à l'être humain un sentiment d'avoir une morale. Vous voyez, c'est un danger. Bon, il n'est pas très très développé, mais il faut être conscient. L'autre danger, c'est celui de l'idolâtrie de la nature. On voit dans Romains ceux qui ont adoré la créature plutôt que le créateur. Voilà, on pourrait aussi être dans une sorte de vénération de la nature. Voilà, je pense que c'est les deux seuls dangers de un peu trop d'écologie. Pour le reste, je serais plutôt tout à fait favorable à ce qu'on ait des sentiments écologiques. Je pense que je ne sais pas si les chrétiens sont vraiment en retard là-dessus. Je crois surtout que tout le monde a pris conscience du problème, parce que tant qu'on n'était pas très nombreux sur la Terre et qu'il n'y avait pas beaucoup de déchets, bon, ça posait pas de problème. Maintenant, on est nombreux et la Terre, voilà, il faut s'organiser si on veut qu'elle puisse nous supporter. Hein? Donc, comme les autres, on a réfléchi là-dessus, mais depuis toujours, on avait dans la Bible des références assez claires. Hein? Et il n'y a pas très longtemps, je discutais avec des collègues à table, je sentais qu'on sous-entendait que la société occidentale christianisée, était un petit peu, dans son aspect porté sur le ciel, se serait montrée un peu négligente par rapport aux enjeux de la terre et serait un peu responsable de la pollution. Vous voyez. Alors je me suis permis quand même de citer un verset que je vous conseille d'avoir bien à l'esprit si jamais ce type de discussion arrive. C'est donc Genèse 2, on y a fait allusion, hein. Genèse 2, quand Adam est placé dans le jardin d'Éden, il est placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Voilà. Ça, c'est vraiment deux mots qui équilibrent bien. Cultiver, c'est-à-dire c'est à notre disposition pour l'exploiter, pour en profiter, c'est fait pour l'homme, mais le garder en même temps. C'est-à-dire qu'on doit rendre à la génération qui nous suit la nature dans l'état où on l'a trouvée en arrivant. Et si possible, même mieux. Voilà. Donc, il y a l'idée de la prééminence de l'homme sur les autres êtres vivants qui sont un petit peu à son service, quand même, c'est vrai, assujettissez la terre. Mais en même temps, on cultive, on exploite, mais on garde, c'est-à-dire qu'on pense aussi aux générations futures. Donc c'est l'intérêt de l'être humain sur la Terre bien pensé à long terme qui doit être au centre du débat. Voilà.
Bon, moi je ne vais pas vous parler de l'écologie parce que je ne suis pas compétent. Je vais lire simplement quelques passages parce que ce problème de la terre future, c'est quelque chose qui pose question. On le voit quand on rencontre des personnes. Il y en a qui sont très pris. Alors, on a lu quand même quelque chose dans le psaume 104. Je le relis. Au verset 5, « Il a fondé la terre sur ses bases. » Elle ne sera point ébranlée à toujours et à perpétuité. Bon, on a lu le passage tout à l'heure dans l'épître de Pierre, Lucien nous l'a lu, ce passage est bien connu et on voit la terre actuelle disparaître complètement. Bien, je lis en Ésaïe 65 et au verset 17, voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se souviendra plus de ceux qui ont précédé, et ils ne monteront pas au cœur. Je lis dans le livre de l'Apocalypse, un passage souligné aussi tout à l'heure, et je vis un nouveau ciel, après que la question des méchants ait été réglée. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Je lis autre chose pour essayer de chercher un petit peu la pensée de Dieu, qui se trouve dans un autre contexte, au chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens. Je lis ceci, alors il s'agit d'un fondement qui est Christ, base des choses nouvelles dans la seconde création, qui dépasse ce qui concerne le chrétien, tel qu'il est dit dans le chapitre 5 de la seconde épître aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, Christ répondante aux exigences divines, et pour mettre en place d'une manière absolue et définitive la gloire de Dieu, vient résoudre un problème qui concerne les cieux et la terre, tel qu'on le trouve d'ailleurs dans le chapitre 1er de l'épître aux Colossiens. Il vient résoudre un problème qui concerne la terre et qui concerne le ciel. Je lis donc ici en 1 Corinthiens 3 et au verset 11, « Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. » C'est la suite qui m'intéresse. « Si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître parce qu'il est révélé en feu. Quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. » Voilà. Ce qui reste, c'est ce qui est de Dieu. Ce qui est lié à Christ, ce qui correspond à la seconde création, ce qui est produit selon la première épître de Jean, dans la sphère de la vie en Christ, hors du péché. Si quelqu'un est né de Dieu, il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est Christ, c'est la vie de Christ qui s'exprime là. Et un jour, jour, j'ai lu, c'est d'ailleurs dans son Dé des Écritures, j'ai mis ici celui de, qui correspond à la portion de psaume où se trouvent les psaumes que nous avons lus, qu'il y avait derrière ces choses-là une pensée morale beaucoup plus forte que la pensée physique. Et je me dis que, personnellement, j'en suis là dans mes réflexions, hein, je n'engage pas les autres, j'en suis là dans mes réflexions, que ce qui correspond à cette réalité morale en Christ induit quelque chose qui a une portée éternelle. Alors tu dis, Lucien, Dieu se réserve un échantillon. Bon, moi je vois dans le règne de Milan, Christ qui introduit les choses et tout en somme ce qui était mauvais sur la terre disparaît. La terre répond à ce que nous trouvons dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, avec la puissance divine en activité, la mise de côté de toutes les manifestations ennemies, Satan est lié, ne peut plus agir, il y a encore des hommes sur la terre qui seront manifestés plus tard, mais quand un méchant veut produire quelque chose, hop, celui qui connaît les cœurs et qui domine surtout enlève cette créature-là avant qu'elle produise quelque chose de mauvais. Il y a donc une puissance divine capable d'introduire quelque chose de nouveau. Oui, nouveau ciel, nouvelle terre, lié à Christ. J'en reste là, dans ma réflexion. Pour moi, il y a un accord entre cette pensée-là d'une réalité morale, de quelque chose de nouveau, la puissance du Seigneur peut produire ces choses-là, et le passage qui a été lu à la fin d'une épître de Pierre, où on voit les éléments actuels, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à Christ, disparaître, parce que le feu l'éprouve, et il n'en reste rien, tout est brûlé. Pour moi, ça va ensemble. Je vous laisse cette réflexion pour que vous aussi, vous essayez d'approfondir de manière que nous ne trouvions pas dans la parole de Dieu des choses qui ébranlent les âmes avec ce qui peut apparaître comme une contradiction.
J'ai juste un début de réponse à cette question. Donc en relisant Romains 1 et au verset 20, depuis la fondation du monde, ce qui ne peut se voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. C'est que la puissance éternelle de Dieu et sa divinité me semblent être liées dans ce verset. Et donc ces choses se discernent par les moyens, par les choses qui sont faites, qui sont créées. Et la divinité de Dieu, c'est ses caractères de bonté, de justice, de vérité. Et il me semble que Dieu ne fait pas le travail à moitié, qu'il se révèle à sa créature en montrant effectivement sa puissance éternelle, mais aussi ses caractères de bonté, d'amour et de vérité. Et il le fait aussi. Ce livre, l'éternité dans leur cœur, vous avez pensé. Je pense que Dieu fait un travail complet dans les cœurs. Et je vais peut-être répondre autrement à la question par une autre question qu'on trouve en Genèse chapitre 18 et au verset 25. Merci Jean-Luc pour la référence. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste ?
Oui, moi j'appuierai surtout sur cette dernière phrase. Bon, là j'ai travaillé un peu sur Apocalypse 20 pour le web. On voit le grand trône blanc, les morts se présentent, ils sont jugés selon leurs œuvres, donc il y a là certainement des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Il y a un « si » qui semble introduire une alternative. Si quelqu'un n'était pas trouvé dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Donc personnellement, je distinguerais trois scénarios. Premier scénario, on a entendu l'évangile, on l'a reçu, on est sauvé. Qui croit au Fils à la vie éternelle. Deuxième scénario, on a entendu l'évangile, on l'a refusé. qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Troisième scénario, on n'a pas entendu l'évangile, on sera jugé selon ses œuvres, et là, je n'en dirai pas plus.
J'étais pas prévu, mais je vais être court. Je crois qu'il y a deux choses dans cette question. La première, c'est vraiment la question brutale. Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas entendu l'évangile? La réponse que moi je donne, c'est 2 Timothée 2, verset 19. Vous connaissez par cœur. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Donc le Seigneur sait, dans tous ceux qui sont nés sur la terre, ceux qui seront dans sa maison ou pas. C'est une première chose. Donc je ne connais pas la règle, mais je sais, ça rebondit sur ce que tu disais, hein, que le résultat de la règle est juste. La deuxième chose, c'est plus le partage d'une expérience, c'est que souvent, c'est les incrédules qui posent cette question. Mais dis donc, toi, tu me parles de Dieu, mais en fait, pour ceux-là qui n'ont pas entendu parler, qu'habitent la Papouasie occidentale, ou qu'en est-il? Et pour eux, la réponse, c'est toi qui es concerné par l'Évangile. Et des fois, cette question, donc c'est le deuxième aspect de la voix, des fois, cette question, elle masque une vraie question à laquelle on ne veut pas répondre. Et donc, je partage avec vous cette expérience. Si quelqu'un d'incrédule dit « qu'en est-il de ceux-là ?», la vraie réponse, c'est dire « mais d'abord, parlons de toi. Le Seigneur te parle à toi, il t'invite à toi. Toi, aujourd'hui, tu entends l'Évangile. »
Alors, à moins qu'il y ait un ajout de dernière minute, si un frère veut ensuite proposer un cantique après Jean-Luc.
Il y a peut-être aussi un élément de réponse en Romains 2, quand il nous est dit que ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui accomplissent la loi qui seront justifiés. Car quand les nations qui n'ont point de loi, et on peut penser à celles qui n'ont pas reçu l'Évangile, qui n'ont pas reçu la loi, font naturellement les choses de la loi. N'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes, et elles montrent de la loi écrite dans leur cœur. C'est-à-dire que l'homme, à la création, il a une parcelle de divin en lui. Et avant de connaître Dieu, avant d'avoir la révélation de Dieu, avant de connaître l'Évangile, il est responsable par cette loi écrite dans leur cœur, dans son cœur. Et ces personnes qui n'ont pas entendu l'Évangile, elles seront jugées par Dieu selon ce que la marche qu'elles ont eue par rapport à cette loi écrite dans leur cœur. Enfin, c'est ce que je pense, je ne sais pas si d'autres partagent.
Oui, excuse-moi, je peux, 10 secondes. Oui, à condition qu'il ait rejeté l'idolâtrie. Si quelqu'un adore une idole ou d'autres choses de ce style, il me semble que là, il est en dehors de l'être pur.
Peut-être un dernier mot en tant que missionnaire. Pourquoi n'ont-ils pas entendu parler? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Est-ce que le Seigneur n'a pas dit « Allez, faites disciples toutes les nations »?